Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France, le peloton de cette grande boucle qui va dans quelques minutes maintenant passer la frontière et réintégrer le pays, la France, après ce beau passage par l'Italie. Le peloton qui se trouve encore actuellement en Italie, au pied des Alpes. Nous sommes dans la première ascension du jour de cette première grande étape de montagne aujourd'hui, avec deux cols de catégorie à franchir et surtout le premier hors catégorie de ce Tour de France, le col du Galibier, l'un des cols les plus difficiles de France et surtout l'un des plus hauts. 2642 mètres qu'il faudra franchir tout à l'heure avant la grande descente vers Valloire, où sera jugée l'arrivée de cette quatrième étape. C'est une étape très excitante. Il se passe déjà plein de choses. On va tout vous dire dans un instant. L'équipe, évidemment, de l'Intégral Tour est là, au complet. Cyril Guimard, évidemment, il est là, en pleine forme. Comment ça, mon Cyril?
Il est ouvert, mon
Oui, grâce à Jérôme Coppel, qui est descendu de sa moto.
Une étape qui est partie à une vitesse grand V aujourd'hui, avec que des attaques et déjà des choses intéressantes.
Eh bien, on va tout vous dire. Jérôme Coppel.
Salut Christophe. Bah
oui, il descend de la moto, donc il se passe des choses, forcément.
Bien sûr, c'est toujours comme ça. Je suis très heureux de vous retrouver.
Tu t'es régalé hier sur la moto?
C'était excellent. Non, je me suis pas tant ennuyé que ça, finalement. La moto marchait pas très bien. J'ai pu discuter avec plein de monde. Non, c'était cool. Bon. C'était quand même un peu long, j'avoue, mais c'était quand même sympa.
Du coup, tu y retourneras demain, je crois, c'est ça?
Demain, exactement.
Demain, après-demain.
Oui, voilà.
Du coup, il a pas été payé non plus hier, en fait, comme il a rien fait.
Je suis bénévole, c'est pas encore moi qui vais redonner de l'argent à RMC quand même.
Pierre-Yves Leroux, vous avez entendu sa voix, évidemment le plus chambreur de toute la bande.
Bonjour à tous. Oui, très bien, très très bien. Quelle belle journée, on va passer.
Il fait un temps magnifique aujourd'hui sur les Alpes françaises. Nous sommes au pied de Valloire, dans la vallée de la Maurienne, à Saint-Michel, puisque le gros camion RMC ne peut pas monter jusqu'à Valloire, comme tous les véhicules techniques. C'est de plus en plus le cas sur le Tour de France. Malheureusement, on va pas voir beaucoup de coureurs aujourd'hui, mais on voit la montagne, c'est déjà pas mal.
Mais on a raté la cascade de la Pisse il y a quelques instants.
La cascade de la Pisse,
magnifique.
D'accord. C'était pas à cause de Marco et Arnaud.
Écoute, on va leur demander.
Ils sont sur la course. Eux, ils voient les coureurs, ils voient les montagnes, ils voient la route, la moto RMC. Marco au guidon et Arnaud au commentaire. Bonjour les garçons.
Salut les amis, nous sommes au soleil, tranquillement. Alors Marco, vous parlera après, il est en train de prendre sa petite pause syndicale, donc il ne faut surtout pas le déranger à ce moment-là. Il est tranquillement en train de s'alimenter et surtout de fumer une petite cigarette.
Sur la moto, il a le droit sur la moto de faire ça.
Non, justement, on a arrêté la moto à l'ombre des sapins, là, tu vois, voilà. Franchement, on a une vue absolument extraordinaire. Ça va te plaire et te rappeler des souvenirs, Christophe, sur Pradgelato. Pradgelato et son tremplin de saut à ski qui avait accueilli en 2006 les épreuves de saut à ski des Jeux Olympiques de Turin. J'ai pas regardé, j'ai pas vérifié, mais si je me souviens bien, c'est un certain Simon Hamann qui avait été champion olympique de saut à ski. Il faudra peut-être vérifier ça, mais le franco-suisse Jérôme Coppel peut-être s'en souviendra. Bref, en tout cas, on est dans la montée de Sesrières. Elle est très longue, elle n'est pas hyper difficile, mais quand même il faut se les infuser, les 40 km de montée. Tu parlais du col du Galibier comme l'un des plus hauts cols de France. Eh bien la route de Sesrières, c'est le plus long col cette année du Tour de France, donc voilà, c'est une belle entrée en matière pour le peloton.
C'est la plus longue, mais ce ne sera pas le col le plus haut, puisqu'on passera à la Bonnette les trois derniers jours
effectivement.
du Tour de France. C'est rare, d'habitude le Galibier c'est le plus haut.
C'est la plus longue là.
Ouais,
c'est ça.
Ok.
C'est ça, d'habitude le Galibier c'est le plus haut, 2642 mètres. Il faut savoir qu'il y a trois routes carrossables plus hautes en France que le Galibier. Il y a le col Daniel, il y a le col de l'Iseran et la cime de la Bonnette, 2802 mètres, que nous verrons donc lors de l'antépénultième étape ou l'avant-dernière étape, si mes souvenirs sont bons.
L'avant-avant-dernière étape, puisque le lendemain nous serons au col de la Couillole et le dernier jour, le contre-la-montre entre Monaco et Nice. Mais cette dernière semaine fait peur à tout le monde, évidemment. C'est la première étape de montagne, donc il va forcément se passer des choses aujourd'hui. On va faire un premier point sur la course, parce que depuis le départ tout à l'heure de Pinerolo, eh bien, il s'est déjà passé pas mal de choses. C'est le premier top course de l'après-midi. Il y en aura un paquet, mais tout de suite, on va faire bosser Pierre-Yves Leroux, le top course.
RMC
Top Course.
On est déjà presque à moins de 100 km de l'arrivée. Ça va vite aujourd'hui. 102 km encore à parcourir, mais évidemment, le profil fait que ça ne va pas rouler à 50 sur la dernière heure de de course. Quoique, ça pourrait aller vite quand même, puisqu'on sera dans la descente. Une minute d'avance pour les échappés. Aujourd'hui, il y a plusieurs échelons dans cette course. Il y a un groupe d'échappés dont je vais vous donner les identités dans quelques instants. Ils sont 17. Ils possèdent 1 minute et 2 secondes d'avance sur le peloton. Il y a un troisième groupe qu'on appelle le groupe Van Aert, qui est à 2 minutes, qui dans cette première difficulté a été lâché. Et puis déjà un groupe Eto qui est en train de se former avec les sprinters à 5 minutes. Le groupe Maillot Vert de Abrahamsen qui est présent. Il y a déjà eu un sprint, il faut quand même le rappeler. Sprint remporté tout à l'heure par Mats Pedersen. Et c'est un peu ce qui a bien lancé les festivités sur cette étape, puisque les équipes de sprinters ont tenu à aller chercher des points. Et d'ailleurs, Abrahamsen va conserver pour un petit point son maillot devant Binyam Girmay, maillot vert. Et puis derrière, ça a été les aventures pour ceux qui veulent aller chercher la victoire d'étape. Et je vous donne les identités des coureurs qui sont donc dans l'échappée, qui possèdent 1 minute 10 d'avance. Il y a 7 Français sur les 17 hommes en tête. Christopher Juul Jensen est présent à l'avant. Julien Bernard, Bruno Armirail, David Godu, Romain Grégoire et Valentin Madouas, tous 3 pour l'équipe Groupama FDJ. C'est l'équipe la mieux représentée. Mathieu Van Der Poel est également à l'avant. Stephen Williams, leader de l'équipe Israël Première Tech. Hoyer Lascano pour la Movistar. 2 hommes pour Arkea BNB, Raúl García Pierna et Christian Rodriguez. Kobe Gossens pour l'équipe Intermarché. Warren Barguil, un autre Français, est présent également à l'avant avec Alexei Lutsenko, Christian Ecking et Tobias Johannessen. Et enfin, un dernier Français pour l'équipe Total Energy, c'est Mathieu Burgodeau, le Vendéen.
Voilà donc pour les hommes de tête, mais il y a déjà des dégâts à l'arrière. On a vu plusieurs leaders se faire déjà distancer, et notamment un Français sur lequel on comptait sur ce Tour de France. Je l'avais même mis vainqueur d'étape aujourd'hui. Il a été le premier largué avant même les sprinteurs. Un certain Lignier Martinez.
Exactement, c'était assez incroyable.
Étonnant, mais,
dès les premières pentes, il a été lâché, Lignier Martinez. Donc ne le mettez pas dans vos paris, hein. Tu auras le droit de changer, Christophe.
Okay. Bah, je vais changer parce que ce n'était pas un pari officiel. Donc il n'y avait pas Johan.
Mais effectivement, Lignier Martinez, qui n'était pas attendu sur ce Tour de France, on a été surpris de le voir arriver. Et bien finalement, il est en difficulté une nouvelle fois dans ce début de Tour. On espère pour lui qu'à un moment il va pouvoir se remettre, mais c'est vraiment des premières journées très compliquées pour le jeune coureur de l'équipe Groupama FDJ.
Donc l'écart est en train de se faire petit à petit, Jérôme. 1 minute 16 au dernier pointage entre les 17 hommes de tête et le peloton. Voilà, ça se fait doucement quand même, hein. On ne leur laisse pas beaucoup d'avance. Ils sont pourtant très nombreux, ça pourrait monter, mais on n'a pas décidé pour le moment de laisser complètement la liberté à ce groupe.
Non, et est-ce qu'ils vont avoir beaucoup d'avance, c'est pas sûr, hein. On voit déjà bien sûr les coéquipiers de Richard Carapaz, le maillot jaune à l'avant du peloton, mais surtout les coéquipiers de Tadej Pogacar avec Wellens qui tire le peloton aussi. Donc voilà, Pogacar doit avoir des ambitions aujourd'hui. C'est peut-être le jour où il va vraiment commencer à tester Vingegaard, peut-être de plus loin. On rappelle qu'il a essayé dans la côte de San Lucas sans distancer Vingegaard. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même profil, hein. Il y a un tout petit peu moins de dénivelé que la première étape. Il y a 3600 mètres, mais des cols beaucoup plus longs. Tu l'as dit tout à l'heure avec Arnaud, le passage du Galibier qui est très très haut en altitude. On va voir comment Vingegaard va réagir sur ces longues montées, mais en tout cas Pogacar semble avoir de l'ambition puisqu'il a déjà mis un homme à rouler.
Cyril, c'est important, une première étape de montagne, d'autant qu'elles ne vont pas s'enchaîner les autres tout de suite, hein. Il faudra attendre ensuite le Lioran, puis les Pyrénées en deuxième semaine, et puis la troisième semaine évidemment dans les Alpes. Donc elle est un peu isolée, c'est rare cette situation sur un parcours de Tour de France. Donc aujourd'hui c'est quand même l'occasion de mettre le point sur la table, sachant qu'il y aura quand même un chrono dans quelques jours. Mais c'est une étape très importante aujourd'hui.
C'est une étape très importante, et il faut se rappeler que dans l'histoire du Tour de France, il y a toujours eu sur la première grande étape de montagne de grosses défaillances. Alors je ne sais pas s'il y en aura aujourd'hui. On a déjà eu, alors c'est vrai, 2 étapes relativement difficiles où il fallait déjà travailler, on va dire, un peu le muscle du grimpeur. Mais une première étape de montagne, je n'ai jamais vu sans grosse surprise. Donc on a déjà eu au départ Roglic qui avait été piégé dans une forme de cassure. Alors piégé, ou est-ce qu'il était un petit peu à la limite, à la rupture? Il a réussi à rentrer. On avait annoncé également Egan Bernal, mais là on n'a pas pu vérifier si c'était juste. Mais des grandes défaillances, il y en aura, et je pense que déjà il y en a au moins une que l'on connaît, c'est Lenny Martinez.
Oui, Lenny Martinez, une déception, même si on le disait, il n'était pas programmé pour ce Tour de France. La décision s'est faite entre le championnat de France et le départ du Tour. Vu l'état de forme de David Gaudu, Marc Madiot a fait un pari, mais pour l'instant c'est pas un pari gagnant, Jérôme, faut bien le dire.
Pour le moment, de loin non gagnant. Est-ce qu'il va rallier l'arrivée? C'est surtout ça la question, parce que quand vous sautez avant Mark Cavendish sur une étape de montagne, c'est quand même signe que, quand vous êtes grimpeur en plus, c'est quand même signe que les jambes sont pas très bonnes. Autant David Gaudu,
tu deviens un sprinter.
Tu deviens un sprinter. David Gaudu, lui, est à l'avant, donc ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais pour Lenny, là, ce qu'on craignait un petit peu, c'est-à-dire qu'il arrive au Tour en bout de course avec c'est un peu les sensations qu'on avait après son Tour de Suisse. Sur un Tour de France, on se refait pas quand on est si jeune en plus, c'est compliqué. Franchement, abandonner les courses, c'est toujours très compliqué. Mais alors, abandonner un Tour de France quand c'est votre premier, j'ai vécu ça. Vous passez des sales moments derrière. Donc, j'espère qu'il va réussir à s'accrocher, à rallier l'arrivée et qu'il aura des jours meilleurs. Mais il va passer une sale journée, Lenny.
Une sale journée donc pour Lenny. Bernal et Roglic, on a des nouvelles. Ils ont pu réintégrer le peloton.
Ils ont réintégré le peloton. Et alors, même si c'est scindé encore, il y a le groupe Van Aert n'est plus qu'à une vingtaine de secondes derrière. Donc va réintégrer très certainement le peloton dans un instant. Il y a 1 minute 41 d'avance maintenant pour les échappés.
Puis ça monte quand même, ça monte.
Oui, oui, oui. Mm-hmm. C'est aussi pour ça que ce groupe Van Aert va pouvoir rentrer. Et puis il y a le groupe Eto qui est en train de se former là, 6 minutes désormais.
Voilà, c'est une grosse étape de montagne, donc les délais seront importants, hein, Jérôme, a priori.
Oui, oui, ils sont importants. Il faudra quand même pas traîner en route. Alors vous savez que les délais, c'est toujours calculé par rapport à la vitesse moyenne du premier. Chaque étape est classée suivant la difficulté. Il y a un coefficient. Donc là, c'est une des étapes les plus dures, coefficient 5. Et voilà, si les coureurs font cette étape à 34 de moyenne, par exemple, les délais vont tourner autour de 38 minutes. Et s'ils vont plus vite, 36 de moyenne, ça tournera entre 39 et 42 minutes à peu près. Donc les délais sont quand même assez grands. Mais je vous rappelle que sur l'étape, l'étape fait 139 km. Il y a 70 km d'ascension quand même. Et on sait que le groupe Eto, bien sûr, perd du temps dans les montées, en rattrape dans les descentes et dans les vallées. Il y a très peu de vallées aujourd'hui. Il va falloir qu'ils roulent très vite dans les descentes pour entrer dans les délais.
On va quand même s'intéresser aux noms principaux de ce groupe de tête, hein. On le disait, 7 Français, ils sont pas mal encore nos Français aujourd'hui, Cyril, même si on est en début d'étape. Enfin, il y a du beau monde là-dedans, les David Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madouas, qui porte le maillot à poids et qui pourrait d'ailleurs le revêtir ce soir, hein, parce qu'il n'avait que quelques points de retard derrière Abrahamsen. S'il passe en tête à Sestrière, ça devrait peut-être le faire.
Oui, ça pourrait le faire, et puis il a deux équipiers éventuellement pour l'aider à faire ce classement. On est encore loin du sommet, hein, il faut voir comment les choses vont se passer. La vitesse maintenant va se réguler dans le groupe de tête. Le peloton a décidé de laisser partir. Il y a un tempo qui est assuré derrière par l'équipe du maillot jaune, qui est leader, et l'équipe du grand leader, l'équipe UAE, favori. Donc maintenant les choses vont se faire graduellement dans cette ascension. Ce groupe de tête passera en tête au sommet du premier col, mais à noter quand même qu'on n'est pas loin des 40 de moyenne depuis le départ.
Oui, mais ça ne suffira pas du tout pour Valentin Madouas.
S'il passe le Galibier.
Voilà, c'est ça. Même s'il passe les.
Il y a combien de retard sur Abrahamsen?
13 points.
Il a 13 points. Il n'y a que 5 points de données sur les deux premières montées, là, qui sont en catégorie 2, la montée de Sestrière et puis le col de Montgenèvre. Il faudrait qu'il aille chercher quelques points dans le col du Galibier aussi, pour pouvoir espérer revêtir le maillot à pois ce soir.
Oui, mais c'est un départ.
Oui, bien sûr.
C'est marrant parce que les premiers jours, il était avec Abrahamsen, mais il ne cherchait pas à aller faire les points et à disputer les sprints du Grand Prix de la Montagne.
Il y a plus à gagner aujourd'hui que sur les deux premières étapes.
Oui, mais quand tu es intéressé par le maillot à pois, tu l'es dès le départ, non?
Ouais, alors il a
Ou fait, alors tu le deviens au fur et à mesure.
Il avait quand même grappillé quelques points la première étape. Là, c'est une bonne affaire parce qu'Abrahamsen n'est pas dans l'échappée. Donc, même s'il ne prend pas le maillot, il va quand même faire un rapproché en espérant qu'il arrive à prendre le maximum de points en haut des deux premières difficultés du jour. Mais certainement que dans ses 17 hommes de tête, il n'est pas le seul à viser le maillot à pois aussi. Donc, on risque de voir de la bagarre pour empocher les 5 points en haut des deux premiers cols.
Très bien. Il est 14h20, on va faire un nouveau top course avec toi Pierre-Yves, donc à 96 km de l'arrivée de cette quatrième étape et dans l'ascension du col de Sestrières.
RMC
Top Course.
96 km à parcourir pour cette nouvelle étape du Tour de France. 2 minutes 08 désormais pour les hommes de tête. Ils sont 17, dont 7 Français. Je vous rappelle Christopher Juliensen dans cette échappée. Julien Bernard, Bruno Armirail, David Godu, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Mathieu Van Der Poel, Stephen Williams, Oyer Lascano, Raoul Garcia Pierna, Christian Rodriguez, Kobe Gossens, Warren Barguil, Alexei Lutsenko, Christian Eking, Tobias Johansen et enfin Mathieu Burgodo. Le groupe Eto est à un peu plus de 5 minutes désormais, alors qu'on va bientôt quitter l'Italie, qu'il reste 6 km d'ascension pour les hommes de tête.
Cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister au quart de finale de l'Euro 2024. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC avec le voyage à Hambourg, vol et hôtel compris, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match, et puis bien sûr vos deux places pour le quart de finale qui aura lieu le vendredi 5 juillet à 21h et qui va opposer qui, messieurs? Hein? Qui? Le vendredi 5 juillet à 21h?
Ça sera la France et le Portugal.
Exactement. France-Portugal, magnifique affiche de ce quart de finale. Et dès que vous entendez cette alerte. Et bien, dès que vous entendez le cocorico, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Vos places pour le quart de finale entre la France et le Portugal se gagnent uniquement sur RMC. Il est 14h22. On revient dans un instant sur les routes italiennes. Dernier, il faut en profiter. Hein, ce sont les derniers kilomètres avant de rentrer au pays. On est content quand même de rentrer en France. C'était bien l'Italie, mais la France encore mieux. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Messieux.
L'intégral Tour de France, la quatrième étape aujourd'hui de cette grande boucle, le Tour de France qui va donc rentrer au pays après cette escapade italienne qui aura duré 3 jours et demi, un peu plus, avec l'aventure évidemment, le grand départ à Florence, un petit passage à Rimini, à Bologne et à Turin, et donc aujourd'hui départ de Pinerolo pour arriver à Valoire. Nous sommes dans la première ascension du jour, le long, très long col de Sestrières, 39 km d'ascension. Waouh, c'est énorme Jérôme ça, 39 km.
C'est énorme quand vous arrivez au pied. Hein, je me rappelle d'une étape du Tour avec Blaise Cadry qui a gagné une étape. On était à côté, puis il me dit: Jérôme, surtout ne lève pas la tête. Bien sûr, quand on vous dit ça, première chose que vous faites, vous levez la tête. Sommet 26 km. Là, on prenait un coup au moral. Donc, eux, quand ils ont vu sommet à 39 km, ouais, là, si t'es pas grimpeur, tu prends un gros coup au moral. Tu sais que t'es là-dedans pour plus de 2 heures. C'est très, très long. Et puis, ça sera pas le seul de la journée, hein, surtout avec le Galibi à la fin. Voilà, bah, nous, on adore, hein, ces étapes à commenter, à voir. Mais certains coureurs, je pense que, ce matin dans le bus, quand ils ont ouvert le livre de route et quand il y a eu le briefing, ils ont dû bien se dire qu'ils allaient passer une très très longue journée.
Et on approche du sommet justement, Pierre-Yves, on est à quoi, 4 km environ du passage au col?
4 km exactement du passage au col, tu as raison de préciser ça, hein. C'est pas le sommet, c'est le col justement, entre deux sommets il y a un col, et ça sera donc du côté de Sestrières dans 4 km, là l'écart ne cesse de monter, 2 minutes 50 toujours, alors qu'avec le groupe maillot vert c'est toujours stable autour de 6 minutes 20. Ça veut dire que c'est bien du côté du peloton qu'on roule tranquille pour le moment, mais ça ne va pas durer. Déjà, on va surveiller la descente à venir. 93 km encore à parcourir. Le peloton donc s'est reformé. Il n'y a plus deux groupes comme tout à l'heure. Van Aert notamment est rentré dans ce groupe.
Alors Cyril, hier dans l'after tour, tu avais deux scénarios possibles. Soit la grande bagarre avec les cadors qui ne laisseraient pas partir les échappés, soit on leur laisse de la place et ensuite on règle les affaires entre nous. Quel scénario te semble celui qui va se dérouler aujourd'hui, à ton avis, maintenant, après
un peu plus d'heure de course? On est parti sur le scénario de l'échappée matinale, si on peut dire, entre guillemets. Donc cette échappée de 17 coureurs qui est partie, et avec, d'abord comme c'est parti à la pédale, il n'y a que des mecs qui marchent devant et qu'on ont des bonnes jambes. Donc le peloton va décider en fonction du tempo qui sera assuré en tête de peloton, où il laisse prendre 3-4 voire un peu plus d'avance, et le groupe de tête se disputera à l'arrivée, ce qui n'empêchera pas bien sûr la grande bagarre dans le Galibier.
Il y a des garçons qu'on attendait. Oui, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, bah il y a une petite épine quand même dans le pied de l'échappée, dans les pieds des échappés. C'est Eking et Warren Barguil qui sont qu'à 2 minutes 31. Et Carapace, lui, il n'a pas envie, je pense, de perdre son maillot. Donc il a déjà des coéquipiers qui roulent. Mais voilà, on a des coureurs au classement général qui sont très loin. Mais on en a deux qui ne sont pas si loin que ça, qui se sont glissés dans l'échappée, notamment notre Français Warren Barguil. Donc ça peut condamner un petit peu l'échappée, ou en tout cas certains coureurs de l'échappée. S'ils étaient tous à 10-15 minutes, peut-être que l'échappée aurait déjà 5-6 minutes à l'heure actuelle.
Et oui, Warren Barguil, coureur de la formation DSM, équipier, coéquipier de Romain Bardet, lui qui a brillé aussi sur les routes du Tour par le passé, avec plusieurs étapes remportées. Il n'a jamais porté le maillot jaune, en revanche, il me semble.
Ah non, il n'a pas porté le maillot jaune.
Maillot à poids, oui.
Voilà, il a porté le maillot à poids. Est-ce que c'était pas du côté de Foix, d'ailleurs? J'ai un souvenir comme
oui.
ça.
Oui.
Dans les rues de Foix, où il était tout à sa joie. C'est pas pour faire des rimes, hein, mais je le revois ce jour-là, effectivement. Warren Barguil, vainqueur de deux étapes sur le Tour de France, effectivement. Mais c'est maintenant un petit peu lointain. Il a du mal à confirmer. C'était le porteur du maillot à poids sur la 10e étape de 2017.
Paris, hein.
Oui, vainqueur du classement du meilleur grimpeur en 2017. Termine 10e cette année-là et il gagne ses deux étapes en 2017 avec sa victoire à Foix.
C'est plus le prix de la combativité. Il avait raflé pas mal de choses. 2017,
oui,
ça avait été énorme.
Il gagne à Foix donc en 2017, le 14 juillet en plus, qui plus est. Et puis il gagne au col de l'Izoard, et je m'en souviens très bien parce que j'étais sur la moto ce jour-là, et sur le col de l'Izoard on voit très très bien ce qui se passe, et on voyait la montée royale de Warren Barguil. C'était un super super journée pour lui. Derrière, il a été plutôt régulier, hein, d'ailleurs, parce que dans ses tours suivants il termine 17e, 10e, 14e, 22e encore en 2023. C'est un garçon qui est quand même régulier dans le top 25, on va dire, mais au niveau des victoires d'étape, il n'a jamais revécu ce bonheur depuis 2017.
C'est vrai qu'on a été un peu frustrés, Cyril, après cette année extraordinaire en 2017. Comme le disait Pierre-Yves, Warren est resté stable, mais on aurait pu espérer qu'il rentre vraiment dans le gotha des grands coureurs du Tour de France. Ça n'a pas été le cas.
Il a fait un super Tour de France, il faut bien le dire. Moi, je me souviens de cette photo au sommet de l'Izoard quand il sort de la pente pour replonger sur la ligne d'arrivée. Il y a une photo absolument sublime. Je pense qu'elle doit être en bonne position dans le salon chez Warren. Oui, il n'a pas confirmé. Bon, alors c'est vrai que c'était aussi une période où il avait toute liberté. Il n'avait pas, il n'était pas marqué. Il partait dans les coups. Personne ne courait après. Il allait grappiller des points au fil des étapes. Puis une fois qu'il s'est retrouvé, bien sûr, ce qui lui a permis de gagner deux étapes d'ailleurs, et avec le maillot. Bon, après, il a eu un statut un peu protégé sur ce Tour de France. Au milieu du peloton, on ne jouait plus avec lui, comme avec Virenque à la grande époque de Virenque. Et puis derrière, bon, est-ce qu'il ne s'est pas endormi? Est-ce qu'il n'a pas, est-ce qu'il n'a pas pris la grosse tête? Est-ce qu'il ne s'est pas remis en cause suffisamment tôt? Parce que derrière, il va gagner un beau championnat de France, mais derrière, après, c'est quand même au niveau des victoires et des grandes performances, ça s'est quand même un peu étouffé.
Il avait fait vraiment des belles années. Rappelez-vous, il avait aussi gagné deux étapes sur le Tour d'Espagne 2013. C'était quand il était dans l'équipe Sunweb, donc c'est l'équipe DSM maintenant.
Il est parti, il est revenu.
Voilà, entre-temps, il est parti chez Arkea, et c'est là où il a été champion de France. Mais c'est vrai que sur le Tour de France, sous les couleurs de l'équipe Arkea, il n'a jamais aussi bien brillé que quand il était dans le team Sunweb. On va voir maintenant, il est retourné à la maison, et ça a l'air d'aller très très bien pour Warren Barguil. On lui souhaite la même réussite.
C'est malgré tout un beau palmarès. Quand tu as été champion de France, meilleur grimpeur du Tour, deux étapes de la Vuelta, deux étapes du Tour de France, la combativité du Tour, voilà, je pense qu'il pourra se retourner à la fin de sa carrière et être plutôt fier de son parcours. Warren Barguil, qui se trouve donc dans ce groupe de tête et qui pourrait, sait-on jamais, vu la réussite des Français lors des deux premières étapes, peut-être tout à l'heure, pourquoi pas, revêtir le maillot jaune.
L'écart se réduit déjà.
L'écart est en train de se réduire. Donc on va rester quand même mesuré sur notre enthousiasme concernant Wawa.
Oui, mais si l'écart bouge, c'est les hommes de tête qui, pour l'instant, ont relevé le pied, parce que on a trois écarts. On a celui sur le peloton et celui sur le groupe maillot vert. Et on s'aperçoit que sur le groupe maillot vert, qui est quand même l'autobus.
C'est stable.
C'est très stable. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à la vitesse du groupe Eto.
Oui. Et puis, on parle de Warren Barguil, mais il y a quand même une équipe qui doit faire un coup aujourd'hui. C'est la Groupama FDJ. Ils sont trois devant avec David Gaudu, Romain Grégoire et Valentin Madouas. On peut imaginer qu'eux, ils vont tenter quelque chose à un moment.
Et David Gaudu a l'air mieux dans ses godasses, Jérôme, aujourd'hui. Lui qu'on avait vu complètement à la ramasse lors des deux premiers jours.
Il faut qu'il soit bien dans son cuissard que dans ses godasses.
Oui, mais bon, les deux, ça peut aider quand même, hein, les chaussures.
Bien sûr.
Dans ses cale-pieds.
Ouais, au moins, il est à l'avant de la course. Il est acteur de la course. Donc ça va déjà mentalement lui faire du bien. Maintenant, on va voir au fur et à mesure de l'étape et de la progression de cette échappée comment ses jambes réagissent. Pierre-Yves l'a dit, Groupama FDJ sont trois, mais sur une étape comme ça, le nombre finalement ne va pas jouer énormément. C'est la cuisse qui va parler. Vous avez beau être trois ou dix, si vous n'avez pas les cannes dans le galibier, vous allez sauter comme ceux qui sont un peu isolés. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, ils ont bien joué le coup. Hein. Maintenant, on sait que l'équipe Groupama FDJ vise uniquement les victoires d'étape et pour l'instant, ils ne ratent pas beaucoup d'échappées. Donc ça, c'est excellent.
Et puis un autre nom qui se trouve dans ce groupe, c'est tout simplement le champion du monde, Mathieu Van Der Poel. Que vient-il faire dans cette galère, Cyril ? C'est étonnant de voir Mathieu là.
Étonnant non, puisqu'on l'a déjà vu avant le premier sprint comptant pour le classement du maillot vert, où à un moment il y avait une échappée qui était partie, il s'est mis en tête de peloton et il a sorti tout le monde de la roue. Et en fait, il voulait ramener le peloton sur le premier groupe où il y avait Mads Pedersen pour ramener Philipsen.
Oui.
Et là, on a vu qu'il avait de très bonnes jambes. Donc ensuite,
et il s'est dit, pourquoi pas, tiens, je vais essayer, je vais
balader. Finalement, il a accompagné ça facilement.
Ben oui, il est assez facile comme garçon quand même. Hein. Mmh. Mathieu Van Der Poel, évidemment, la haute montagne n'est pas son truc, c'est dommage parce qu'il a toutes les autres qualités du coureur cycliste, il l'est déjà.
Mais on est sur des pentes à 5%.
Oui, c'est ça, c'est pas très pentu.
Oui, c'est un col qui est très long, mais pas très raide. Attention à quand on va arriver déjà dans Montgenèvre, ça sera déjà un petit peu plus raide. Et puis surtout, là, la fin du Galibier, on rappelle qu'ils vont basculer en haut du Galibier, enfin, ils vont monter le Galibier en passant par le Lautaret. Lautaret, c'est pareil, hein, c'est 4-5%, c'est pas très dur. Par contre, les 9 derniers kilomètres en haut du Lautaret, ils vont tourner sur la droite. Là, ça devient très, très raide. En plus de l'altitude, là, Mathieu, avec son gabarit, quand même, il va le sentir passer.
Exactement. Et en plus, il va avoir de la neige. Il y a des névés un peu partout.
Mais il a ses skis qui l'attendent.
Il y a même un incendie, nous dit-on, du côté de Briançon. Alors, je ne sais pas si Arnaud sur la moto a des nouvelles concernant cet incendie, parce qu'on a vu un push tout à l'heure qui nous disait le tour ne pourrait pas passer tellement il y a de fumée. Je ne sais pas. Rien n'a été dit. Ouais.
On la voit.
Donc fais attention, mets ton masque. Quoi,
en tout cas, non, on ne la voit pas de ses strières. Moi, j'ai rien entendu à ce sujet-là, mon cher Christophe.
Ok, bon, bah, écoute, on a vu ça apparaître tout à l'heure.
Ça n'a pas l'air d'émouvoir plus que ça. Mais je vais regarder quand même, hein, je vais me renseigner. Mais...
Ouais. Prends ton extincteur au cas où, on ne sait jamais. Il y a un extincteur sur la moto de Marco. Oui.
On arrive sur le dernier kilomètre, excuse-moi Arnaud, sur le dernier kilomètre, et la préparation du sprint pour les points est commencée.
Oui. Allez, on va le vivre justement, ce sprint, pour aller chercher les points de la montagne, puisqu'on est à 600 mètres du passage au col de Sestrières.
Sachant qu'il n'y a pas énormément de points, hein, on le disait tout à l'heure, 5 points classés en deuxième catégorie, même s'il est très très long, les pentes ne sont pas suffisantes pour le classer en première catégorie et encore moins en hors catégorie, sur ce qui sera le cas du col du Galibier tout à l'heure. Donc il y aura évidemment beaucoup plus de points à aller chercher. Petite scène amusante il y a quelques instants à l'avant du peloton avec Nils Polit qui emmène pour l'équipe UAE, et puis on a aperçu les équipiers de IF Education First et notamment Alberto Bettiol lui faire signe, non mais vas-y avance, il s'était retrouvé tout seul, les IF ne relayaient pas, il a fallu que Tish Benoit pour la Visma Lease the Bike vienne boucher le petit trou qui avait été fait, comme quoi on veut pas rouler trop vite quand même du côté du peloton et laisser à cette équipe ses échappés, pardon,
Valentin Madouas.
Voilà, c'est parti pour Valentin Madouas. Exactement, la bagarre est lancée avec Warren Barguil qui se bat également pour aller chercher les points. Il y a bagarre avec Stephen Williams également pour Israël première tech, et c'est Stephen Williams qui va aller prendre les points pour Israël devant Valentin Madouas et Warren Barguil.
Voilà, les points de la montagne, c'est pas pour Madouas ni pour Barguil, ils se sont fait passer devant par ce coureur de la formation Israël.
Oui, et Barguil a explosé les deux cuisses là sur le sprint.
Il n'a pas explosé une, il a explosé les deux, carrément.
Ah oui, tu Ouais. Très bien, il est 14h39, voilà donc le groupe de tête à Sestrières. Ils vont entamer la descente et ensuite ils monteront vers le col de Montgenèvre et dans cette ascension, ils passeront la frontière et entreront en France. 14h40, on revient dans un instant sur la route du Tour pour cette première étape de haute montagne. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Il est 14h43, vous êtes sur RMC, la radio du Tour de France Intégral Tour. C'est jusqu'au 21 juillet, ça dure depuis des années et ça va continuer encore jusqu'à la retraite de Cyril Guimard. Il serait tardé quand même, hein. Peut-être s'en débarrasser un jour. Je parle doucement comme ça, il n'entend pas. Parce qu'il est sourd comme ma peau.
De toute façon, il entend.
Ah, mais il entend, mais il a même appuyé sur le bouton.
Si, j'ai entendu.
Ça va, mon Cyril? Combien de tours encore?
Bah, écoute,
je parle fort, hein. Comment? Le monsieur te demande combien de tours encore.
Ah, je pense que j'arrive au bout du chemin.
Oh non, bon non.
Au bout du tunnel.
Tu as vu que j'ai
commencé à voir
tu vois la lumière ou pas?
Ben non, je commence à voir le cimetière des éléphants.
Bon, tu as vu que Jérôme Coppel est là après à prendre la relève. Hein. Il est là comme un chien d'arrêt.
Pas du tout. Moi, je sais pas comment je vais faire sans Cyril d'ailleurs. C'est peut-être mon dernier aussi. Qui
c'est peut-être notre dernier à
mais
tous.
Mais t'inquiète pas, j'irai vivre chez toi.
Ah bah volontiers. Non,
il restera Pierre-Yves et Arnaud c'est l'année prochaine. Qui va
être j'irai vivre en Suisse.
Voilà, bien.
Pourquoi pas. Allez, 14h44, on s'intéresse évidemment à cette quatrième étape. Nous sommes à 84 km de l'arrivée à Valoire tout à l'heure. Le peloton est encore sur le territoire italien, mais plus pour très longtemps. Nous sommes dans la descente de Sestrières. Tiens, on va rejoindre justement Arnaud sur la moto RMC. Ça descend vite. Une belle route, une belle et large. Large route, Arnaud. Hein.
Magnifique route, c'est idéal là pour prendre de la vitesse les échappés qui sont évidemment à plus de 80 km/h actuellement. Voilà, c'est pas une descente qui est vraiment très très raide, hein, et tu l'as dit Christophe, une route qui est absolument magnifique. On va encore descendre pendant quelques kilomètres, un petit peu moins de 5 km avant d'entamer le début de la montée du col de Montgenèvre qui nous ramènera vers notre douce France.
Douce France, effectivement, dans la montée de Montgenèvre tout à l'heure pour la deuxième ascension du jour. On rappelle les passages au sommet, les passages au col plus exactement, tu le disais Pierre-Yves tout à l'heure, col de Sestrières avec donc un Anglais qui est passé devant. C'est pas n'importe qui, hein, Williams. Hein.
Ah non, effectivement, Stephen Williams, Jérôme, on rappelle son palmarès, on en discutait il y a un instant en se disant attention, si Warren Barguil, puisqu'on le reprécise, Valentin Madouas est passé en deuxième position, Warren Barguil en troisième position et Johan Essen en quatrième, ils se sont fait blouser entre guillemets, mais pas par n'importe qui, Stephen Williams, effectivement, pas. Qu'on voit de plus en plus dans les classements.
Exactement, par le vainqueur de la Flèche Wallonne, hein, et du Tour Down Under en début d'année, donc il fait vraiment une très belle saison, Stephen Williams. Honnêtement, je ne le connaissais pas trop avant cette année, avant le Tour Down Under. Alors, je savais qu'il était pro, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison pareille, encore moins qu'il gagne la Flèche Wallonne. Voilà, ce n'est pas surprenant, finalement, quand on gagne la Flèche Wallonne, on sait qu'on a un punch incroyable et qu'il batte Valentin en haut d'un col comme ça, qui n'est pas si raide. On est vraiment sur les qualités de Williams.
Parce qu'ils auraient pu amener un autre leader, Israël Premier Tech.
Chris Froome,
un ancien leader, oui.
Par exemple.
Et oui.
Par exemple. Et oui. Ça se murmurait, hein, que le sponsor voulait imposer, enfin un des sponsors en tout cas, voulait imposer.
Celui qui paye peut-être, celui qui paye le salaire pharaonique de Chris.
Bah, je crois pas que c'est lui, parce que ils sont un peu en guerre. Hein, le patron de l'équipe Israël Premier Tech, c'est Sylvain Adams, et puis ils sont un peu en guerre avec Chris Froome. Non, je crois que c'est un autre sponsor de l'équipe, mais finalement ça s'est pas fait. Il y a même des rumeurs comme quoi ça allait être Woods ou Froome, parce que l'an passé Froome n'était pas venu parce que Woods ne voulait pas de Froome, ce qui apparemment est complètement faux, mais résultat, cette année, on n'a ni l'un ni l'autre au départ du Tour.
Chris Froome qui arrive vraiment en fin de carrière quand même. Là il a profité de son
dernier moment déjà.
C'est un moment qu'il est en fin de carrière.
Je confirme.
Il y avait des sous à prendre, il les a pris.
Il les a bien pris.
Il les a bien pris, oui.
Qui ne les aurait pas pris en même temps, oui, 5 millions d'euros pour être groupé tôt. Je suis prêt à reprendre ma carrière pour ça, moi d'ailleurs.
Même un mois.
Mais qui pourrait te filer 5 millions d'euros à part RMC? Je ne vois pas trop. Le peloton qui est donc passé à son tour à Sestrières avec un retard de combien?
2 minutes. Toute ronde, donc c'est vraiment pas un gros écart. Derrière, il y a un petit groupe qui avait décroché sur les derniers kilomètres. C'est le groupe de Lee avec quelques sprinteurs, mais qui sont capables quand même de bien monter. Puis il y a ceux qui arrivent vraiment
difficilement à monter. On va pas dire mal parce qu'on n'arriverait même pas à les suivre, Christophe. Ils sont à 8 minutes. C'est le groupe Maillot Vert avec les Cavendish et compagnie.
Avec un bon vélo assistance électrique. Hein.
Ah oui,
avec ça, c'est une grosse batterie parce qu'il faut tenir.
Ouais, t'aurais pas assez d'autonomie là parce que t'aurais besoin du turbo à fond, non, toi, des estrières.
Tu sais que en matière de batterie, en matière de véhicule électrique, on a eu une petite hésitation ce matin parce qu'on a vu la voiture du patron du Tour de France avec le dossard numéro 1 au passage. Donc du col du Fréjus, alors que normalement Christian se trouve à l'avant
au
de la
départ,
course. Mais il faut savoir qu'ils roulent en tout électrique, les patrons d'ASO, et qu'en tout électrique, a priori, on peut peut-être pas faire l'état un peu complète. C'est
faut surtout savoir où ils étaient logés, s'ils ont pu la recharger la veille aussi, parce que peut-être qu'ils ont pas pu la recharger et qu'ils avaient une petite autonomie pour trouver quelque chose de l'autre côté de la frontière. Ouais, on n'y est pas encore au tout électrique avec les vélos sur le toit, ça consomme quand même beaucoup. Ouais. On sait que la conduite, alors quand il n'y a pas de problème dans le peloton, il n'y a pas de souci, c'est régulier, ça consomme pas beaucoup. Mais d'un coup, vous avez une crevaison, quelque chose, faut remonter le peloton très vite. Voilà, les à-coups, ça pompe quand même pas mal sur la batterie.
Et puis le gros problème de Christophe avec son vélo électrique, c'est qu'il veut pas se faire voler la batterie, donc il la garde dans son sac à dos.
Ah.
Donc forcément, c'est plus compliqué.
Ouais,
c'est...
Ouais. Je peux même pas l'amener au Club France pour les Jeux Olympiques. Donc heureusement, je vais trouver une solution grâce à mon chef bien-aimé. Il m'a trouvé une solution. Arnaud, je l'ai entendu ouvrir son micro. Il a des choses à nous dire peut-être.
Oui,
exactement.
Non, je disais que la voiture numéro 1 est également au village départ ce matin.
Donc il y a deux voitures numéro 1.
D'avoir un certain don d'ubiquité.
Il y a peut-être deux voitures numéro 1.
La voiture numéro 1 qui doit être en train d'admirer actuellement, parce que, alors que je vous en ai pas trop parlé, mais on est quand même dans des montagnes qui sont absolument magnifiques, absolument extraordinaires, et des montagnes qui voient leur cime encore enneigée. Et oui, parce que il y a eu beaucoup de précipitations et des températures relativement fraîches tout au long du mois de juin, et donc on peut admirer la neige sur les sommets. Et d'ailleurs, j'en discutais tout à l'heure avec Thierry Gouvenou, l'un des directeurs de course du Tour de France et le traceur du Tour de France, qui me disait, alors je ne sais pas exactement comment c'est en haut du Galibier, mais il y aura très certainement de la neige au bord de la route. Reste à voir si ce sera des murs de neige. Je ne pense pas non plus que ce sera des murs de neige, mais on devrait avoir de la neige. On rappelle qu'il fera 8 degrés tout à l'heure pour les coureurs, à mettre en comparaison aux 38 degrés qu'on a eu par endroit lors de la première étape.
Bon, tu as pris une petite laine pour passer le Galibier.
J'ai sorti mon premier blouson, de l'été.
Très bien. Faut pas attraper froid quand même. Bon, petit Arnaud, à tout à l'heure, 77 km de l'arrivée. On va revenir sur l'étape d'hier, cette troisième étape qui s'achevait donc à Turin et qui a donc vu la victoire de Binyam Girmay, le coureur érythréen de la formation Intermarché Wanty. C'est la première fois qu'un coureur d'Afrique noire s'impose sur une étape du Tour de France. On va vivre ça. C'était donc hier dans la troisième étape à destination de Turin.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Alors, on a retrouvé notre chat noir, l'homme qui, dès qu'il monte sur la moto, eh bien, empêche toute velléité. Ouais, vous l'entendez, le chat noir. Aïe, 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 il griffe celui-là. C'est notre ami Jérôme Coppel sur sa moto. Magnifique, il ne pleut pas aujourd'hui. Mais alors, qu'elle va être longue cette étape. Ça va, mon Jérôme?
Bonjour messieurs, ça va très très bien.
Oh, il y a chute, on s'en doutait, une grosse chute sur le côté droit du peloton avec beaucoup de coureurs qui sont au sol. On va essayer de faire les comptes pour voir si il y a des garçons et notamment des sprinteurs. Je ne sais pas si Philippe Sen n'est pas dans le coup. Je crois que Philippe Sen a chuté et reparti, mais je crois qu'il était dans la chute. Il y a aussi les Cofidis qui sont là, des Israël pour Pascal Ackermann. Mats Pedersen, il est en costaud, il y a bien Girmay qui est là. Mats Pedersen qui voit qu'il peut essayer d'y aller. Il est bien lancé. Mats Pedersen à la lutte avec Arnaud Delis. Il ne faut pas qu'il y ait de chute dans cette dernière ligne droite. Binyam et Girmay qui est sur la gauche pour l'instant. Et c'est pour Mats Pedersen avec Binyam Girmay. Il est pas mal Girmay. Est-ce que c'est Vaillant qui va s'imposer? C'est Girmay qui s'impose pour Intermarché. La victoire de Binyam Girmay. Superbe victoire. On ne l'attendait pas forcément, mais c'est lui qui lève le bras.
C'est Richard Carapaz qui prend le maillot jaune. On avait vu son équipe à rouler et faire tout pour permettre à Richard Carapaz. Donc changement de maillot jaune.
RMC Intégral Tour.
Un Érythréen qui s'impose sur une étape du Tour et un Équatorien qui, pour la première fois dans l'histoire du Tour, eh bien, porte le maillot jaune. C'était la journée des petites nations hier, Pierre-Yves, sur les routes du Tour. Avant de parler de Carapaz, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la journée parce qu'il devrait être dans le coup. Évoquons quand même Guirmay, premier Érythréen et premier coureur d'Afrique noire à s'imposer sur les routes du Tour.
Représentant d'un pays où le cyclisme est roi, ancienne colonie italienne à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où on avait passion pour le Giro, et il s'était imposé sur le Giro déjà, Binyam Guirmay, et il regagne cette fois sur le Tour de France, mais en Italie, petit clin d'œil de l'histoire. Il n'en revenait pas hier, il y avait beaucoup d'émotions au moment de passer la ligne et même au moment de répondre ensuite aux questions des journalistes. Binyam Guirmay qui a eu d'abord le VTT entre les mains et les pieds. Il a commencé par le VTT et puis ensuite on a voulu l'emmener plutôt sur un profil de grimpeur parce que l'Érythrée a beaucoup de montagnes, et puis on s'est aperçu notamment quand il est arrivé dans l'équipe d'Elco Marseille en 2019 qu'il avait surtout une grande capacité de puissance, de vitesse, et donc on s'est dit on va en faire un sprinter, et on l'a donc on lui a fait travailler ses capacités, et depuis eh bien il a réussi à aller chercher de très belles victoires, évidemment en s'imposant en Europe, mais être le premier Érythréen à remporter une course sur le Tour de France, ça il n'en aurait jamais rêvé, en tout cas il en rêvait mais il ne pensait pas y arriver si tôt.
Eh bien, on va l'écouter justement, sa joie à l'issue de cette victoire. Guirmay, donc coureur érythréen de la formation Intermarché Wanty.
Depuis que j'ai commencé le cyclisme, le Tour de France, j'ai toujours rêvé de ça. Remporter une étape sur le Tour, pour moi, c'est juste incroyable. Merci à ma famille, mon épouse, à tous les Érythréens, à tous les Africains, à tous ceux qui m'ont aidé. Maintenant, on fait partie de cette grande course. C'est aussi votre succès, c'est votre moment.
Alors on a évoqué hier dans l'After Tour, Jérôme et Cyril, la situation du cyclisme africain, dont on disait il y a quelques années qu'il était l'avenir du cyclisme. Mais derrière Guirmay, malheureusement, on a du mal encore à voir des coureurs de très haut talent parce que les conditions, parce que former un coureur de très haut niveau, ça coûte très cher. Et dans ces pays, malheureusement, on n'a pas les moyens forcément de faire monter ce genre de coureur.
Oui, ils n'ont pas beaucoup de courses sur leur continent non plus pour se mettre en avant et être repéré par des top teams. Donc il y a ces coureurs là et souvent ça a été le cas pour Guirmay par exemple, passe par le centre mondial de l'UCI à Aigle qui regroupe un peu les coureurs cyclistes des petits pays, on va dire, où il n'y a pas une grande culture cycliste, type Équateur, Colombie, etc. Il y a beaucoup de Colombiens qui sont passés par le centre mondial de l'UCI. Ça leur permet d'apprendre à faire du vélo, d'être formés sur les tactiques de course, sur l'entraînement et de participer aux plus grandes courses du calendrier amateur, notamment en France, avec le Tour des Pays de Savoie, par exemple, la Ronde de l'Isard, etc. Et là, ça permet aux équipes, au World Tour, au Continental, de les repérer et ensuite de les prendre dans leur équipe développement et de les amener au plus haut niveau, ce qui a été le cas pour Guirmay. Mais c'est vrai que courir sur le continent africain, c'est compliqué. Les infrastructures ne sont pas forcément adaptées. Des fois, les pays auraient peut-être des moyens d'organiser des courses, mais ne veulent pas mettre l'argent là-dedans. Donc voilà, ils ont quelques top coureurs qui sont là, mais on n'a pas encore la densité qu'on aimerait.
Oui, on parlait de l'internationalisation du cyclisme. Cyril, voulu notamment par l'UCI et son président David Lapartien, pour l'instant, tu nous faisais le bilan hier et l'état des choses, c'est pas encore ça. Hein. Il y a évidemment beaucoup de coureurs européens, et puis il y en a quelques-uns qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Australie, mais enfin, c'est pas non plus la majorité, loin de là. Hein.
Non, effectivement, lorsqu'on fait les stats sur les... Même d'ailleurs, on pourrait les faire sur les coureurs qui participent au Tour de France. Eh bien, on se rend compte que 95% des coureurs sont du continent européen.
154 sur 176.
Voilà, donc ça fait du 80%. Et encore, les États-Unis, dont on pensait à un moment qu'il allait avoir un gros développement, surtout après Greg LeMond et Lance Armstrong, reste un pays marginal en termes de nombre de coureurs quand on connaît la puissance de la puissance des USA. Eh bien, on a que.
Je pense que l'affaire Armstrong n'a pas fait du bien au cyclisme américain derrière, hein, parce que il l'avait monté en épingle, il l'avait mis au summum, et derrière, savoir que c'était le plus grand tricheur de l'histoire du vélo, ça a un peu refroidi les ambitions, hein, aux États-Unis. On n'a pas le temps, malheureusement, de poursuivre ce débat. On le fera peut-être après les infos de 15h. Ah oui, parce que là, j'entends quoi? J'entends le cocorico, hein, c'est ça? Ah
oui, c'est pas le chat, ça. Ça c'est
pas le chat. Alors, attendez, j'ai perdu mon
Mais non, tu vas le retrouver. Mais alors ça, je te confirme, c'était pas le chat. Ça, c'est quand on entend un cocorico comme ça, c'est un coq. C'est un coq qui chante et qui fait gagner des lots.
Et quand il y a cocorico, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC. Évidemment, RMC Euro 2024. Et pour gagner votre voyage et vos places pour assister au quart de finale de l'Euro 2024. Vous avez donc 5 minutes. C'est parti, clé en main pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. 14h58, les infos de 15h dans un instant. Et nous revenons juste après pour poursuivre cette quatrième étape. On est à 74 km de l'arrivée à Valoire et on a déjà attaqué la montée de Montgenèvre, me semble-t-il. A tout de suite.
RMC, Intégral Tour.